When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1. Alors on va évidemment parler du Grand Prix du Canada, disputé le week-end dernier sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal, et à l'issue duquel Max Verstappen a signé la 41e victoire de sa carrière, égalant Ayrton Senna, faisant de Red Bull une équipe centenaire en victoire. Des chiffres qui donnent le tournis, un podium en or massif. On en parlera avec Stéphane Vrigno. Ça va, mon Stéphane ?
Bah écoute, ça va. Oh, après ce Grand Prix du Canada qui était peut-être un peu moins passionnant que les années précédentes, c'est toujours un classique qui donne lieu à des courses folles. Là, pas tellement, mais il y a quand même des enseignements à en tirer.
Et ben justement, on en parlera. Un podium sur lequel ne figure aucun des pilotes de la Scuderia Ferrari, des qualifications mal gérées, des positions de départ qui interdisent toute ambition sérieuse, et malgré tout, un résultat qui était plutôt correct. Le temps passe, la saison avance et on ne voit pas vraiment les progrès de la Scuderia. Est-ce que ça va durer encore longtemps ? On parlera justement de ça tous les deux. On évoquera aussi le statut des numéros 2 qui ont beaucoup souffert ces dernières semaines, tout particulièrement ce week-end à Montréal. Pérez, Russell et Stroll mis à rude épreuve. Ce podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute aujourd'hui donc avec la route vers les sommets. Est-ce qu'il n'y est pas déjà d'ailleurs Max Verstappen et Red Bull ? La contraction des deux, ça nous donne Verstaboul. Je suis plutôt attaché à cette expression parce que c'est vraiment ça qu'on vit en ce moment. On va revenir donc sur ce 8e Grand Prix de la saison remporté par Max Verstappen qui a mené de bout en bout et qui signe sa 41e victoire en Formule 1. Il égale une marque qui est restée mythique malgré le temps qui passe, c'est le nombre de succès de Ayrton Senna. Alors même si on a vu que ce n'était pas du tout la même émotion que Lewis Hamilton, 41 victoires en Formule 1, devenir l'égal de Ayrton Senna, ça reste quand même une marque importante, Stéphane.
L'égal statistique. je reviens juste sur la qualif. En fait, le sentiment que nous a donné ce week-end, c'est que c'est un champion tout terrain. On a vu ce qu'il était capable de faire lors des qualifications sous la pluie. Ça nous renvoie aussi à la période Ayrton Senna. Et Marco a dit, de toute façon, il est le meilleur. Il est dans une classe à part, quelles que soient les conditions. Je trouve que c'est bien résumé. Il est assez excessif d'habitude, Helmut Marco. Là, il est dans le bon ton, dans la tonalité exacte. C'est logique. Alors oui, effectivement, 41 victoires, ça nous renvoie à Ayrton Senna. Ça fait un petit peu bizarre. C'est autant que le champion brésilien, le triple champion brésilien. C'est assez spectaculaire. Et Verstappen n'a que 25 ans et 9 mois. C'est juste incroyable. Et je me suis dit, mais où en était en fait Ayrton Senna à son époque, à cet âge-là? Eh bien, il était en sa deuxième saison. Donc, on a une accélération, on l'a redit, de la formation des pilotes qui arrive plus tôt en Formule 1. Donc, ça joue forcément en faveur de ces pilotes-là. Et je vois, sur ce visuel, que Senna avait 25 ans en 1985. Il terminait sa deuxième saison, 0 titre. 2 victoires simplement et 7 pole positions. On est loin des scores affichés par Verstappen. Un pilote qui se rapproche un petit peu plus des standards de Verstappen parce que ça a été le premier bébé champion élevé et sorti par une filière Red Bull en l'occurrence, Vettel. Et si on s'arrête à ses statistiques, donc quand il avait 25 ans et 9 mois, c'était en Australie en 2013, il a déjà 3 titres mondiaux, Vettel.
Alors donc que Verstappen n'en a, entre guillemets, que 2.
On a une accélération de l'histoire. Et à l'époque, il n'a fait que 102 Grands Prix. Il y en a moins qu'aujourd'hui. On a 22 Grands Prix à l'époque. Il y en avait 17, 18, mais on n'était pas dans les standards d'aujourd'hui. 26,
c'est peut-être ça le chiffre le plus victoires. Impressionnant, Stéphane. Ouais. On s'arrête là-dessus. Verstappen, il a 25 ans et 9 mois. Il a déjà fait 171 Grands Prix. Senna en avait fait 30. Là, tu nous parles de Vettel qui en avait fait 102.
Oui.
C'est quasiment il a fait quasiment le double de Vettel au même âge.
Oui, et donc 171 Grands Prix, donc il en a fait pas deux fois plus, mais presque. Mmh. Vettel avait quand même 26 victoires pour 102 Grands Prix. Tu vois le ratio quand même, hein, c'est très fort. Pour 41 victoires au crédit de Verstappen aujourd'hui. Et Vettel quand même en pole position, ça tournait. Hein, 37 poles en 102 Grands Prix. Voilà, c'est là où il était le plus fort que Verstappen aujourd'hui.
Bah on sent que c'est pas son exercice favori à Max Verstappen. Justement, donc la comparaison, 171 Grands Prix pour...
C'est plus pertinent, comme tu le dis, par rapport à Vettel et au bout de la même marque de parcours, c'est-à-dire 171 Grands Prix. Donc Verstappen, c'était dimanche dernier donc, au Canada. Pour Vettel, c'était en Italie en 2016. Et on voit que Vettel avait une petite avance. En tous les cas, il avait trois titres en poche. Contre 2 aujourd'hui pour Verstappen. Il avait 42 victoires contre 41 pour Verstappen.
Là, c'est beaucoup plus
serré. Et en termes de pole position, Vettel en avait 46 contre 25 à Verstappen. Donc, Vettel était plus avancé, je dirais, en plan de carrière que Verstappen aujourd'hui.
Alors, il faut rester concentré parce qu'on parle beaucoup de chiffres, mais ces chiffres, ils sont vraiment impressionnants. Vous allez voir ce qu'on va vous donner maintenant. Le sont peut-être encore plus. On va prononcer des noms. J'ai pas le souvenir qu'on en ait parlé statistiquement depuis les 4 années d'existence des fous du volant. Concernant les tours en tête consécutifs réalisés par Max Verstappen, on a... Alors là, il y a quelques petites différences hein, selon les organes de presse. Nous, on en est à 224 tours consécutifs en tête pour Max Verstappen. Effectivement, depuis la fin du Grand Prix d'Amérique,
de Miami.
Voilà. On en est donc à 224 Grands Prix.
Alors, on compte les 10 derniers tours qu'il avait menés sur ce Grand Prix-là, mais qu'il n'avait pas mené entièrement, évidemment. Mmh. Et puis après, il a eu 3 leaderships du début à la fin.
Bah justement, 3 Grands Prix menés de suite, de bout en bout, là, il rentre dans un club quand même. Ça fait un peu mal au crâne quand même, Stéphane.
Oui, donc on parle de Clark en 1963 et 65. Clark, c'est vraiment... je dirais pour beaucoup de pilotes, même qui ont connu cette époque, le grand champion, même plus que, ils en parlent même plus que Fangio en termes d'estime, ce qui est assez incroyable. Et puis on a Senna en 88 et 89, 3 Grands Prix de suite, hein, menés de bout en bout. Vettel en 2012, voilà, donc ça nous ramène à un autre produit, un super champion de Red Bull.
Alors on a déjà prononcé le nom de Jim Clark, avoué qu'on n'en parle pas tous les jours dans les fous du volant, et on va prononcer un nom, moi je ne me souviens pas avoir parlé de Ascari.
Oui, tout à fait. Il a mené et remporté en menant bout en bout 4 Grands Prix en 1952, 4 Grands Prix de suite. Alors j'exclus les 500 miles d'Indianapolis qui n'étaient pas courus ou alors très exceptionnellement par les pilotes de l'époque. Donc il y a encore cette marque de parcours à atteindre par Verstappen, mais on est déjà dans des hautes sphères.
Ça veut dire que s'il mène le Grand Prix, s'il remporte évidemment ce Grand Prix d'Autriche, qui est la prochaine épreuve, en menant de bout en bout, il deviendra l'égal de Ascari.
Tout à fait, il fera même peut-être un peu mieux parce que Ascari, moi je te dis, j'exclus les 500 miles d'Indianapolis qui étaient au calendrier de 1950 et 1960. Alors, ça veut dire qu'il est parmi les grands noms et c'est peut-être... au-delà de ces chiffres-là, ce qui m'a le plus plu dimanche, c'est qu'il a dit qu'il appréciait particulièrement d'être sur le podium avec des gens comme Alonso et Hamilton. Il commence à prendre conscience quand même de son poids dans l'histoire. Il dit, bon, les records, je m'en fiche un petit peu. Mmh. Non, il ne s'en fiche pas. Il apprécie particulièrement parce que c'est toujours pareil.
À toi,
dis-moi qui tu
juges à sa place.
Dis-moi qui tu as battu, je te dirai si tu es un grand vainqueur. C'est tout à fait ça. Hein.
C'est ça.
Et quand tu laisses des gens avec ce CV-là derrière toi, c'est sans ambiguïté. On a longtemps reproché à Schumacher de battre un coéquipier un petit peu effacé. Hamilton, pareil, chez Mercedes par rapport à Bottas. Bon, là, on est quand même dans la cour des grands.
On va parler de Red Bull aussi, parce que c'était une marque importante atteinte à l'issue de ce Grand Prix du Canada. 100e victoire de Red Bull. C'est une question de centenaire en ce moment. C'était le centenaire des 24 heures du Mans la semaine dernière. C'est la 100e victoire de Red Bull en Formule 1. Red Bull qui rejoint, là aussi, un clan très fermé des équipes de Formule 1. 100 fois et plus vainqueurs en Grand Prix.
C'est assez fabuleux et au championnat, ils ont autant de points que le deuxième et troisième réunies.
C'est exactement. Assez impressionnant. On les, voilà, a, donc, les cinq, on les a, les cinq équipes ?
Aston Martin et Mercedes pour ce qui concerne le championnat constructeur. Et,
Aston Martin ?
Pour, c'est, alors, au championnat constructeur 2023.
Ah oui, pardon,
voilà, Red Bull a amassé autant de points que les deux suivants. Ouais. Voilà, ça donne un petit peu une idée. Et pour les...
C'est qui les constructeurs qui ont remporté 100 Grands Prix en Formule 1 ?
C'est Ferrari,
Ferrari,
McLaren, Williams, Mercedes.
Et maintenant, donc, Red Bull.
Red Bull, tout à fait.
Et alors, encore... ce qui est intéressant, c'est le nom de ceux qui ont apporté la centième victoire à un constructeur. Là aussi, vous allez voir, il y a du beau monde.
Bah oui, tout à fait. C'était Prost pour Ferrari en 1990, Senna pour McLaren en 1993, Jacques Villeneuve pour Williams en 1997, Hamilton pour Mercedes en 2019, avant Verstappen, dimanche pour Red Bull au Canada.
Il n'y a que du champion du monde, quoi, c'est ça.
Et il n'y a qu'une seule écurie qui a dépassé le cap des 200 victoires, et c'était Kimi Räikkönen qui avait remporté la 200e pour Ferrari.
Encore un champion du monde. On va terminer avec cette image, avec ce podium, où on retrouve donc Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. D'ailleurs, je devrais dire Max Verstappen, Fernando Alonso et Lewis Hamilton, dans l'ordre d'arrivée. 11 titres pilotes. Mais finalement, le plus titré sur cette photo, bah, c'est Adrian Newey, qui a été invité par Christian Horner à monter sur le podium, qui, à lui tout seul, en a quand même 24 hein, des titres. Alors, 23, oui, 23, 23. Pardon, j'ai anticipé un tout petit
11
peu.
11 titres pilotes, donc autant que les pilotes qui étaient sur le podium, et 12 titres constructeurs. Et... on sent que ça arrange un petit peu. Alors, je crois, Christian Horner qui a dit aussi que Adrian Newey avait remporté là son 200e Grand Prix en Formule 1, avec toutes les écuries dans lesquelles il est passé, Williams, McLaren.
Voilà. Donc, ça faisait un total quand même de 34 titres mondiaux.
C'est impressionnant. Et on sent pour l'instant que la Formule 1 vit aussi sur... ce pont d'histoire, ce rayonnement. Et on a vu aussi qu'en course, et ça, c'était peut-être un indice aussi, qu'on essaie de préserver ou sauver ce qui peut l'être derrière Max Verstappen. Moi, je m'attendais personnellement à un unsafe release d'Hamilton.
Hamilton,
c'était
ouais.
La logique. C'est, il leur démarre sous le nez. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que la FIA, entre guillemets, a fermé les yeux pour...
est-ce que c'était pas pour avoir cette photo
ce duel.
Est-ce voilà, que c'était pas pour avoir précisément cette photo? C'est une question qu'on pourrait se poser. Bon, ça passait juste, mais ça passait
j'aimerais,
devant Fernando Alonso.
J'aimerais connaître les critères quand même, parce que
Faudrait les fixer, ouais, c'est
voilà,
clair.
Voilà, tout à fait. Tant qu'on n'empêche pas effectivement le pilote qui remonte la ligne de donner un coup de volant ou de donner un coup sec sur les freins, c'est sûr que bon, c'est pas dangereux, je dirais. Mais là, franchement, c'est passé fin. Je voyais une pénalité pour Hamilton, c'est un petit peu bizarre. Donc c'est peut-être encore une variable d'ajustement sur lequel on va jouer pour entretenir un petit peu le suspense devant.
On enchaîne dans les fous du volant avec le sujet Ferrari. Et une question, est-ce que ça va durer encore longtemps cette histoire? Vous allez comprendre pourquoi je pose cette question. Les Ferrari ont terminé 4e et 5e du Grand Prix du Canada. C'est plutôt pas mal. La Scuderia a inscrit 22 points à l'issue de ce Grand Prix, contre 15 à Mercedes et 20 à Aston Martin, qui sont devenus ses rivaux directs au niveau du classement des constructeurs. Et pourtant, on a le sentiment, avec cette 4e place de Charles Leclerc et la 5e de Carlos Sainz, bah on a un petit sentiment de gâchis, Stéphane. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Alors,
une occasion manquée.
Pas un sentiment de gâchis, mais il y a un trou maintenant entre les Ferrari et puis les trois voitures de devant. Ils sont à la 4e force du plateau, ça se voit au championnat constructeur, c'est indéniable. C'est le minimum syndical, 4e et 5e, sachant qu'ils pouvaient être challengés par une Alpine, par une McLaren. Il y a des gens qui tournaient bien, qui étaient assez prometteurs, Gasly, Norris, etc. On les voyait aussi avec eux, surtout sur un coup de dé en qualif. Mais là, ils rétablissent bien la situation parce qu'ils n'étaient pas très bien partis en qualif. Ils se sont gargarisés d'être assez proches à l'arrivée. Leclerc à 18 secondes, Sainz à 21, avec quand même une petite voiture de sécurité qui permet de...
Alors, qui arrivait tôt en course aussi.
Oui, tout à fait, mais ça enlève un petit peu du temps. Mais surtout, ce résultat-là, il est obtenu parce qu'ils n'ont fait qu'un arrêt contre deux. Alors, tu vas me dire, bon, ils n'ont pas eu de circonstances, quand on y réfléchit bien, favorables. Ils étaient prêts à s'arrêter qu'une fois parce qu'il y avait aussi une question de pneumatique. Ils ne pouvaient pas faire une séquence médium, dur parce qu'ils n'avaient qu'un train de pneus durs. Donc, ils étaient astreints à ça. Et puis, ça a été une opportunité pour eux de remonter mécaniquement dans le peloton au fur et à mesure que les pit stops se succédaient sous la voiture de sécurité. Bien joué. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et après, ils ont eu beaucoup de discipline. Et ça, c'était plutôt bien. Oui. J'ai pas entendu Sainz se plaindre.
Non.
On y reviendra peut-être sur la qualif, mais ils ont fait les bons élèves, les bons petits soldats. Là-dessus, c'est bien, mais moi, je trouve que le compte n'y est pas. Même quand Fred Vasseur disait, dans la deuxième partie de Grand Prix, nos pilotes ont tourné dans les chronos des trois premiers. Nous progressons. Bon, on ne demande qu'à voir. Nous, on a envie que ce soit vrai, mais ce n'est pas encore flagrant en qualif. Ce n'est pas non plus flagrant en course. Ils ne se sont pas battus avec les trois voitures de devant.
Alors justement, parlons-en de la qualif. Incroyable. Pourtant, il y avait tout pour faire le spectacle et tout pour finalement ouvrir la porte à une équipe qui est devenue un challenger. Ces conditions de piste séchantes. Et là, c'est passé au travers du côté de la Scuderia avec un Charles Leclerc qui est piégé au niveau des choix de pneumatiques et un échange surréaliste avec son ingénieur, hein, Xavier Marcos Padros. En gros, début de la Q2, on sent qu'il faut passer les pneus slick. D'ailleurs, Albon est parti avec des pneus slick directement au début de la Q2. Leclerc part en intermédiaire et finalement, dès le premier tour, dit ouais, faut, les gars, faut passer les slick. Et là, qu'est-ce qu'on lui répond? Ah, mais Verstappen est en mixte. C'est pas de ça dont on parle. Il y a le pilote qui est dans la voiture, sur la piste, qui s'appelle Charles Leclerc, qui a quelques victoires, qui est un des talents du plateau, qui te dit faut passer les slick. Mais ok. Vas-y, Charles, rentre. Non.
Mais non, parce que les pilotes n'ont pas non plus le final cut. C'est ça aussi, ça le problème. Tu vois, moi, c'est ce que je te parlais quand je disais la radio. C'est-à-dire qu'on les laisse faire et on va voir des choses qui vont être bien senties parfois.
Sans radio, Charles Leclerc serait rentré et aurait dit « mettez-moi des slicks ».
Et puis, on va avoir des naufrages chez les stars et puis tout le monde sera content. Mais surtout, c'est qu'en fait, Leclerc, il n'est pas convaincu de la réponse, évidemment. On a la réponse sur Verstappen, donc lui, il ne sait pas comment se positionner. Donc, il relance. Et ce que répond son ingénieur, c'est « nous voudrions un tour enregistré ». C'est-à-dire qu'il lui donne un ordre, mais au conditionnel. Ça veut dire que tu n'es pas du tout sûr de toi. Sur l'intonation, sur la fermeté du propos, il faut être clair, il faut dire « tu rentres ». Point barre. Là, on a l'impression que, en fait, son ingénieur, il n'est jamais sûr de lui. Il essaie de se couvrir par rapport à ce que font les autres. Pour dire, bon, si on s'est planté, on aura suivi
tout le monde. On a fait pareil que Verstappen, voilà, on ne pouvait pas avoir
quand
faux.
Mais, quoi faire, mais alors, tu sais, quand tu ne sais pas quoi faire, tu fais comme le leader, point. Mm. Voilà, et c'est ce qu'ils sont un petit peu en train de faire. Ils ouvrent le champ des possibilités en disant, oui, on va voir. C'est-à-dire qu'ils voudraient tu sens qu'ils voudraient toujours encore 10 secondes, 20 secondes de plus pour décider. Mais là, la Formule 1, c'est 5 secondes pour décider, point barre.
Il y avait un article très intéressant écrit par Julien Pereira sur Eurosport.fr après le Grand Prix de Monaco, justement, et une sorte de comparaison avec les ingénieurs de Lewis Hamilton et de Max Verstappen, autrement dit Peter Bonington pour le Britannique et Giampiero Lambiase pour le Néerlandais. Et justement, tu parlais d'intonation. Est-ce que vous vous souvenez quand Lewis Hamilton avait crevé à la fin du Grand Prix de Silverstone, le calme incroyable de Peter Bonington qui lui donnait le delta par rapport à Max Verstappen qui lui fondait dessus, mais le calme dans la voix de Peter Bonington qui lui disait 15 secondes, 14 secondes, 13 secondes, il reste un tour. Mais ça, finalement, ça transpire après dans le pilote. Ah, il s'appelle Lewis Hamilton, donc il y a aussi un certain capital confiance chez le Britannique. Mais ça transpire là. Finalement, on sent dans l'échange radio qu'il ne sait plus très bien où il en est. J'ai absolument rien personnellement contre cette personne, mais là, il faut quelqu'un qui ait du sang froid, vraiment, qui ait du sang glacé dans les veines pour répondre « oui, rentre, non, ne rentre pas », mais surtout, donner une réponse cohérente. Là, à chaque fois, il n'y a pas de cohérence dans la réponse.
En termes de stratégie, Ferrari a l'habitude d'envoyer des bouteilles à la mer. On va voir ce que le pilote va en faire, s'il insiste pour rentrer ou pas, etc. Alors, le problème dans tout ça, fondamentalement, c'est un problème du samedi. On demande à l'ingénieur du pilote de se transformer en stratège. Il y a des stratèges pour la course. Le dimanche, des gens qui regardent
à
Maranello,
écoute le pilote,
qui étudient ce qui se passe et après qui font des propositions aux stratèges en chef qui sont validées par Fred Vasseur, le directeur d'équipe. Rien ne se fait sans l'avis du directeur d'équipe. Là, on est un petit peu plus en direct. Il n'y a pas de stratège le samedi ou alors vraiment quelqu'un qui dit on fait comme ça, et en fait c'est un dialogue qui est direct et continu. On patauge, mais là, c'est tout simplement ça. Mais on demande un petit peu à l'ingénieur de faire un peu autre chose de ce qu'il fait d'habitude, parce que j'ajoute une chose qui est très importante, c'est que ce Xavier Marcos Padrós, c'est un ingénieur d'abord qui a une qualité de dialogue avec Charles Leclerc pour régler la voiture, pour savoir ce qu'il ressent. Et c'est lui qui le traduit, ces sensations-là, c'est super
précieux. Et il le fait sans doute très très bien.
Et mais... c'est ce qu'il sait faire de mieux. Et après, on lui demande des extras sur des décisions qui sont à prendre dans un temps très très limité, qui sont à haut risque, je dirais. Et si ça ne tombe pas bien, ça leur tombe dessus.
Mais voilà. Pour moi, là, on est déjà trop loin dans la réflexion, Stéphane. Il n'y a pas de stratégie à avoir. Ça, on évoque des conditions de piste, savoir quel pneu on prend. Il n'y a pas de stratégie à avoir. Que veut le pilote ? Le pilote, il te dit, je veux ça.
Allez, mais moi, je suis pour.
Rentre, tout on met fait. Tes pneus. Voilà. Point. Il n'y a, même pas, il y a même pas à discuter. On va continuer. Qualification, le comportement de Carlos Sainz en qualification. Et enfin, deux fois, il est passé pas loin de provoquer un accident qui peut être potentiellement mortel.
Oui, puis on essaie libre aussi. Enfin, c'est...
Il gêne Pierre Gasly. Ouais. Gasly arrive à balle. Alors, il y a deux actions qui sont assez hallucinantes. Il essaye de bloc-passer, je crois que c'est Tsunoda qui arrive. Ouais. C'est un réflexe de fou. Il le voit, il met un coup de volant pour lui fermer la porte. Mais on est en qualif. Oh, ça va pas. Et accessoirement, il y en a un qui arrive à 300 km/h à côté.
Il est en train de préparer son tour chrono et il veut pas que Tsunoda le gêne. Je comprends bien, mais ça, c'est aussi, ça se prévoit. Enfin, il arrive au virage 13 sur Tsunoda, mais on l'a pas prévenu à la radio.
Et il reproduit la situation quasiment en Q3 avec Albon, qui arrive, pareil, il est à 300 km/h et Sainz est au milieu de la piste. Il a pris 3 places de pénalité pour Gasly.
Je dis pourquoi 3 places pourquoi
parce que personne l'a percuté. Si quelqu'un l'avait percuté, il aurait été exclu, et sauf qu'il y aurait potentiellement eu un accident potentiellement létal. Là c'est pareil, j'ai rien non plus contre Carlos Sainz personnellement, mais il y a un moment, faut lui dire t'as pas le droit de faire ça, tu peux pas faire ça.
Non, puis surtout c'est que quand tu l'écoutes, c'est jamais de sa faute. Et là il dit quand même en qualif avec un aplomb formidable, on m'a gêné 7 fois pendant les essais, etc.
Mais ce qui est pas impossible.
Les autres n'ont
d'accord.
pas été sanctionnés,
on a pas vu les images, en
mais
tout cas.
C'est tout en lui qui est pris. Et puis en qualif, en course aussi, il fait un peu de bluff en disant « je suis plus rapide ». On regarde, bon, il y avait un delta de 2 dixièmes par rapport à Leclerc. Et quand il a pu rouler à sa main, ben, on a vu qu'il n'avait rien dans la poche, quoi. Donc, il avance tout le temps comme ça. Il sait qu'il est le numéro 2. Je pense qu'il le sait trop et qu'il essaie de lutter un petit peu contre ça. Il essaie de cacher un peu les évidences. Et bon, il a fait le travail correctement, ce qu'on lui a demandé, sans sourciller. C'est bien dimanche. Il a apporté 10 points au total. C'est parfait, mais il faut plus que ça, quoi.
Alors justement, ça nous permet de rebondir quand même sur le sujet de base qui était combien de temps, est-ce que ça va durer longtemps chez Ferrari ? Et il y a eu une entrevue qui a été réalisée par nos confrères de l'équipe avant le Grand Prix du Canada avec Fred Vasseur, qui concédait quand même que c'est plus compliqué que prévu. Même si il dit qu'il s'était pas fait de scénario à l'avance, là, je pense qu'on est en train vraiment de comprendre le temps qu'il va falloir pour restructurer. Jean Alesi nous l'avait dit aussi, hein, quand on l'avait reçu, qu'il faudrait du temps et qu'il fallait que les gens, les tifosi, la presse italienne, soient patientes, parce que ça, c'est un chantier colossal que de remettre l'équipe Ferrari en ordre de marche.
Il parle du recrutement, Fred Vasseur, tout simplement. Et il a dit, c'est vrai que quand on passe de Red Bull à Mercedes ou à Aston Martin, la famille reste dans la même maison, les enfants continuent d'aller à la même école. Et par contre, quand on leur demande de venir en Italie, il faut tout changer.
On explique et c'est pourquoi rapidement. On explique pourquoi rapidement. 90% des équipes de Formule 1 sont en fait dans un périmètre de quelques kilomètres.
On appelle la Carbon Valley en Angleterre.
Pas loin de Silverstone à Milton Keynes. Et dans ces environs, il y a Red Bull. Mais voilà, quand vous allez travailler pour la Scuderia, vous déménagez, vous allez à Maranello. L'autre exemple, ça doit être aussi Sauber, où là éventuellement
vous allez
à Inwil.
AlphaTauri va déplacer beaucoup de personnel en Angleterre.
Et pourquoi ? Précisément pour ça.
Ouais, tout à fait. Donc c'est pas pour le climat. Plus facilement. Et là, en fait, Vasseur, il est enfermé à Maranello.
Et ça rejoint une autre citation lue de chez nos confrères de l'équipe. En Formule 1, on vit des temps longs de recrutement, de constitution d'équipe. On parle avec des gens qui nous rejoindront en 2026. Ça, c'est les propos de Fred Vasseur. Ça appuie parfaitement ce que tu dis. Encore une fois, il va falloir être très, très, très patient, très, très, très longtemps pour voir finalement la Scuderia Ferrari retrouver un niveau technique capable de faire une voiture qui fera concurrence à Red Bull, et puis un niveau d'exploitation sur les Grands Prix qui permettra de ne pas désarmer Charles Leclerc qui se retrouve piégé et qui ne peut pas participer à la Q2. Encore une fois, il va falloir du temps, et on vous dit ça. Moi perso, je suis fan du personnage de Fred Vasseur. Tu veux que je te dise, les deux gamins Vasseur, les deux fils de Fred Vasseur, ils bossaient dans le paddock des 24 heures du Mans. Ils bossaient. Je veux dire, pas du tout dans le domaine de la course, dans le domaine du catering, de la restauration. Mm-hmm. Voilà. Je pense que Fred Vasseur, il a de quoi financièrement mettre ses enfants à l'abri de ce genre de choses. Mais non, il les fait bosser, turbiner, parce que c'est quelque chose de voilà, ça fait partie des valeurs de Fred Vasseur. Donc c'est vraiment pour vous dire que on n'est pas en train de critiquer le bonhomme, on n'est pas en train de vous dire qu'il n'est pas du tout à la hauteur, mais là on se dit, oh, mais ça va être long, long, long. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? Est-ce qu'à un moment, chez John Elkann, tout ça, on ne va pas succomber à la pression? Voilà. Mais les supporters de Ferrari, va falloir vous armer de patience, parce que là on comprend sur des choses comme ça, que ça va être très très long. On va pas claquer des doigts et régler tous les problèmes.
Non, mais par exemple en 2021, quand il fallait exploiter une voiture qui n'était plus développée, je l'ai trouvé meilleur sur l'exploitation même, parce qu'ils se concentraient sur les réglages de la voiture et ils étaient beaucoup plus dans le vrai à cette époque-là qu'ils le sont aujourd'hui. Là, ils font du yo-yo en permanence.
C'est peut-être plus facile quand ta voiture elle est figée. Tu la connais.
Oui, bien sûr, mais on essaie de se rétablir le dimanche. Et puis, il y a des fautes qui sont encore évidentes. Je vois Sainz qui est parti presque au... Alors, il s'est cartonné en essai libre 3. Il roule sur une bande blanche. Il part encore à l'équerre. En Q2, ça passe tout juste moyennement. Il faut, là c'est pareil aussi, c'est le zéro faute finalement, c'est ça. Mais Sainz il fait le job, hein, parce que tu vois, 4 top 5 sur les 5 derniers Grands Prix, il est encore devant Leclerc au championnat. Donc il n'y a pas grand chose à lui dire.
La suite des fous du volant, c'est d'évoquer le statut des numéros 2 dans chacune des équipes principales. On a exclu Carlos Sainz, on l'a déjà habillé pour l'été. Et puis il y a quand même une série effectivement de top 5 qui finalement défend le pilote espagnol. On va s'intéresser à trois pilotes qui nous semblent quand même un petit peu en difficulté à des niveaux divers. On va voir ça.
Qui aurait dû briller de toute façon, parce qu'on a vu Verstappen survoler le Grand Prix et puis juste derrière Alonso et Hamilton en bagarre, ils ont et une Aston Martin et une Mercedes.
On va parler de leur coéquipier. Exactement. Sergio Pérez, donc on commence. Alors, ça peut paraître bizarre de dire qu'il est en difficulté. Il est quand même deuxième au classement du championnat du monde avec 126 points. Ouais, sauf que c'est le coéquipier de Max Verstappen. Et que Max Verstappen, il en a 195. Alors, pour avoir quand même une image un petit peu plus juste de la radiographie Pérez, on s'est intéressé aux trois derniers Grands Prix, c'est-à-dire Monaco, Barcelone et Montréal. C'est simple, hein. Si on faisait un mini championnat sur ces trois derniers Grands Prix, Max Verstappen est premier avec 76 points marqués. De toute façon, c'est simple, hein. 3 victoires plus un meilleur tour. Lewis Hamilton, 46 points marqués sur ces trois derniers Grands Prix. Preuve que ça commence à aller mieux. Fernando Alonso, 42 points marqués, donc quasiment à égalité avec Lewis Hamilton, mais quand même déjà à 30 points de prix dans les mirettes par Max Verstappen. On parlera aussi de George Russell, 25 points marqués, ça veut dire quasiment la moitié des points de Lewis Hamilton. Carlos Sainz, 24 points. Esteban Ocon serait sixième dans ce championnat avec 23 points marqués. Sergio Pérez, 21 et Lance Stroll, 10. On s'intéresse d'abord à Sergio Pérez. 21 points marqués sur ses trois derniers Grands Prix contre 76 à Max Verstappen. Là, on n'est même pas au tiers. On en a parlé de Sergio Pérez, et encore là, pendant ce Grand Prix du Canada, où était Sergio Pérez, où était la deuxième des Red Bull?
On n'y a pas tellement fait attention parce qu'il y avait des choses intéressantes devant. Helmut Marko a commenté la prestation de Verstappen. Il a aussi commenté celle de Pérez d'une façon plus étrange, à travers une formule un petit peu imagée. Il a dit les deux seuls qui ont été capables de tenir le choc face à Verstappen ont 80 ans à eux deux. C'est Alonso qui en a 41, qui en aura 42 en fin juillet, et Hamilton qui en a 38. Ça veut dire que On a beaucoup de jeunes pilotes sur le plateau, mais c'est encore les vieux briscards de la piste qui font le job. Et que derrière, on ne voit quand même pas grand-chose. Et Pérez, quand même, qui a commencé la Formule 1 au début des années 2010, devrait être inclus dans ce pack de pilotes. Et comme tu dis, il a été transparent. Moi, je n'ai pas eu l'impression de l'avoir vu. En
bah
tout
non.
cas, voilà.
Termine sixième.
Oui, sans une manœuvre incisive. J'ai vu Norris, j'ai vu Albon se défendre magnifiquement avec une caractéristique particulière de sa voiture, mais il en a bien tiré parti.
Alonso et Hamilton offrir un spectacle exceptionnel.
Ouais,
mais Pérez, absent du rendez-vous. Et ce n'est pas la première fois. Alors, il y a eu ce recadrage hein, où on lui disait arrête de te fixer sur Verstappen, fais ton job. Mais là, il n'y arrive plus. Et honnêtement, j'ai envie de te dire, Sergio Pérez, heureusement pour lui qu'il a un contrat, y compris pour l'année prochaine.
Oui.
Parce que là, sinon, un des sujets qu'on pourrait évoquer dans les fous du volant, c'est qui pour remplacer Sergio Pérez.
Bah ça n'empêche pas de toute façon Marco de le renvoyer chez AlphaTauri, hein, si ça ne lui plaît pas, parce qu'il a un contrat Red Bull Racing, mais qui lui donne une place dans l'une des deux écuries. Donc, il a déjà fait le coup hein, par le passé.
Est-ce qu'on en est déjà là?
Non, mais la menace est peut-être assez proche quand même parce qu'il parle de pilotes réservistes qui pourraient mettre à la place ou tester. Donc, mais même si pour l'instant Tsunoda et De Vries ont autre chose à s'occuper que de penser à prendre la place de Pérez, donc c'est ça aussi qui éloigne un petit peu le danger pour Pérez. Mais concrètement sur l'explication de Pérez, il a dit la voiture est performante, elle fonctionne bien. Donc effectivement, merci pour l'honnêteté. Il dit simplement, après l'intervention de la voiture de sécurité, je ne parvenais plus à faire fonctionner mes pneus, c'est-à-dire les mettre, les amener à une bonne température
c'est
de fonctionnement.
C'est une difficulté qu'a reconnue aussi Max Verstappen, sauf que lui, il s'appelle Max Verstappen et qu'il a réussi à s'en sortir.
Et puis tu l'as vu zigzaguer, surtout avant le restart.
Ah ouais.
Voilà, donc il s'en occupe de ses pneus. Donc c'est peut-être aussi un petit peu ce qu'on devrait demander à Pérez, qui parfois s'endort sur des restarts. Je te renvoie au Grand Prix de France l'année dernière, où il a dit, bon, il devait, Checo devait dormir. Donc ça se travaille, hein, tout ça. Hein. Donc il faut être au taquet à tous les niveaux. Et Pérez, il est un petit peu dedans. Je me demande s'il n'était pas défaitiste, si il pensait que entre 4 et 6, pour lui, c'était un bon résultat d'où est-ce qu'il partait et que les 3 premières places ou 4 premières places étaient inaccessibles parce qu'il a de la chance. Il y a Russell aussi qui a abandonné. Mais ça fait qu'il est encore en porte-à-faux. C'est juste incroyable. Et puis, on ne sent pas que quand il roule, il se passe quelque chose. En Q1, quand même, quand la piste est mouillée, tu as vu le numéro que nous fait Verstappen quand il se lance le premier dans son tour. Il est en haut des bordures.
Ouais.
Il est en glissade partout. Alors là, c'est le festival.
Et ah, c'est Checo, beau à regarder.
Je pense qu'il est tétanisé quand il monte dans sa voiture. Et là aussi, c'est pareil. On n'est pas dans la même classe.
On va parler de George Russell que tu citais il y a quelques minutes. George Russell, donc, qui a fini par abandonner, a étalé, explosé sa Mercedes en montant sur un vibreur et finalement en allant taper le mur. Il est sixième au classement des pilotes, George Russell, avec un total de 65 points contre 102 à Lewis Hamilton. C'est pas un ratio infamant, sauf que quand tu regardes sur les 3 derniers Grands Prix, Hamilton 46 points, George Russell 25, on est quasiment à la moitié. Et ces 3 derniers Grands Prix disputés, ça correspond à l'arrivée de la nouvelle version de la Mercedes. Alors, est-ce que c'est une sortie de piste juste malheureuse en termes de hasard, de calendrier, ou est-ce que c'est symptomatique d'un pilote qui n'arrive pas finalement à suivre les évolutions les évolutions qui arrivent enfin sur cette Mercedes par rapport à un Lewis Hamilton qui, lui, finalement, sait ce que c'est que d'avoir des évolutions et de tout de suite en tirer la quintessence. On l'avait déjà dit, hein, George Russell, finalement, il sait parler avec une voiture erratique qui ne fonctionne pas parce qu'il a grandi en Formule 1 chez Williams et qu'il était confronté pendant 3 saisons à ce genre de phénomène. Bah là, maintenant que la voiture commence à progresser et ça se voit en piste, est-ce que ce n'est pas un petit peu plus compliqué?
Alors, on l'avait dit en début de saison quand on avait reçu Gwen Lagru qui nous avait donné... c'est pas une information, mais un sentiment, une sensation que Lewis, on allait le revoir quand la voiture serait bonne.
Ah oui,
voilà, il était un petit peu en sommeil, il est en réserve de la République. Je regarde juste les 5 premières qualifs de la saison. Russell les a remportés 4 fois dans son duel chez Mercedes
avec
face
Lewis
à Hamilton. On commence à se poser des questions. Que se passe-t-il? Est-il motivé? Va-t-il continuer la Formule 1? etc. Là, maintenant, ça fait 4-4. Là, il a remis les compteurs à zéro. Il a fait le job. Et puis, effectivement, comme tu le dis, la voiture évolue. Ça veut dire qu'elle change, qu'il y a des nouvelles pièces, qu'il faut analyser un comportement, des choses comme ça. Et là, Hamilton, il est dans sa partie. Voilà. Et c'est là qu'il reprend la main. Et je dirais qu'il est en train maintenant redevenu le leader. Russell n'est pas très loin, mais tu as vu aussi ce que faisait Russell, les risques qu'il prenait avant de toucher au virage numéro 9. C'est-à-dire que, alors Hamilton, il a fait quelques écarts, mais c'est Russell derrière qui était un peu pendu quand même pour le suivre et qui a fait cette erreur. Mais c'est la première manifeste depuis qu'il est arrivé chez Mercedes.
Oui, donc... voilà, on ne peut pas dire qu'il soit en difficulté, mais on voit là une première limite. Et je suis vraiment content, moi, que tu aies cité Gwen Lagru, parce que voilà, je ne sais pas combien de personnes connaissaient le nom de Gwen Lagru, mais c'est aussi pour vous dire le travail. Là, c'est un petit peu d'autosatisfaction, mais quand quelqu'un nous dit « Vous allez voir Hamilton quand la voiture, elle va aller mieux, vous allez retrouver le vrai Hamilton », voilà, c'est des gens qui connaissent, qui sont dans le truc. Oui. Et là, quelque part, on a une vérité. On va voir maintenant, on va voir l'évolution de George Russell avec cette nouvelle voiture. Il y a un retard à l'allumage, là, clairement. Je ne suis pas convaincu qu'il ne sera pas capable de ramarrer les wagons avec ce retard pris, parce qu'il a quand même un palmarès qui parle pour lui, George Russell. On n'est pas du tout sur une incohérence de l'avoir recruté.
Non, et puis il était juste derrière en qualif, juste derrière Hamilton. Alors écoutez, on n'a pas précisé la fonction de Gwen Lagru chez Mercedes, c'est le talent scout, c'est le bras droit de Toto Wolff qui gère les jeunes de la filière Mercedes et qui a pour but de les faire monter en Formule 1 dans les meilleures conditions. Et il passe ses week-ends à scanner les pelotons de Formule 2, Formule 3, les jeunes, même il va sur les pistes de karting pour déceler les futurs talents. Et il sait comment ça se passe. Et il observe aussi dans le stand de Mercedes ce que font Russell et Hamilton et ce que fait Russell par rapport à Hamilton, parce qu'il a amené vraiment Russell en Formule 1. En tous les cas, il l'a sauvé de l'oubli. Bon, Russell est, on ne va pas se le cacher, il est un petit peu en dessous Lewis, parce que bon, Hamilton, 103 victoires, c'est
très bon, etc. Ce
n'est pas infamant de dire ça. Et il a juste fait une petite erreur, mais il est tout le temps là. Il a vraiment son mot à dire. Alors, chez Williams, la voiture n'évoluait pas beaucoup. Il faisait avec une voiture qui était assez constante. Donc, à un moment donné, il savait comment elle fonctionnait. On ne lui demandait pas ce travail supplémentaire de comprendre et d'aller plus loin, etc. Et là, Hamilton a encore dit ce week-end, là maintenant, je sais qu'on va dans la bonne direction. Les pièces apportées sont bonnes, sont intéressantes. Et on a des développements qui vont venir, qui vont aussi nous mettre là où on veut. Bon.
Ça fait partie des choses qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines, savoir si la Mercedes continue de progresser et savoir comment va se remettre George Russell de cette sortie de piste, parce que ça impacte au niveau de la confiance. Il va falloir rattraper un petit peu le temps là, les chronos un petit peu perdus par rapport à Lewis Hamilton, se retrouver de la confiance. On va vraiment savoir de quel bois est fait George Russell dans les prochaines semaines.
Et Hamilton sait faire le tri, parce qu'il a dit on était derrière Aston Martin ce week-end au Canada, parce qu'Aston Martin avait apporté de nouvelles pièces. Et lui, donc, il sait où on est maintenant, sa voiture, sur chaque circuit, alors qu'il disait que globalement, depuis un an et demi, quand il tournait, la voiture était un petit peu imprévisible et il ne savait pas quel chrono il allait sortir de la voiture. Normalement, à un ou deux dixièmes près, un pilote sait quel chrono il va
surtout
faire.
Surtout quand on s'appelle Lewis Hamilton.
Et là, il a crédité Aston sur les nouvelles pièces. Donc, il sait que normalement, il devait être devant. Il est un petit peu déçu de ça et qu'Aston a repris la main à cause des nouvelles pièces. Et au passage, ça veut dire qu'Aston Martin a un bon plan de développement et que ça va être la lutte jusqu'à la fin de cette saison.
Ah bah, tu me fais ma transition impeccable, puisqu'on va parler d'Aston Martin et du deuxième pilote d'Aston Martin. Oui, Aston Martin a un deuxième pilote. Il n'y a pas que Fernando Alonso, figurez-vous, qui a Lance Stroll, le fils du patron, huitième au classement des pilotes avec un total de 37 points, à comparer aux 117 points de Fernando Alonso, qui est donc troisième au classement des pilotes. Alonso, 42 points sur les trois derniers Grands Prix. Stroll, 10. Bon, 42 ouais. À 10, là, on commence à dire que ça dévisse quand même sévèrement. Là, ça y est. En fait, on va peut-être redire ce qu'on disait de George Russell. C'est-à-dire que les évolutions sont arrivées. Alonso, il attrape les évolutions et tout de suite, il les exploite à 100%. On a le sentiment que Lance Stroll, il n'a pas compris ce que c'était que les évolutions sur la voiture, parce qu'il paraît même plus en difficulté. Alors, il y a eu cet épiphénomène en Catalogne, où finalement, il a eu un meilleur résultat que Fernando Alonso. C'est presque ce qui donne une image encore acceptable, mais oui. Sinon, ça serait vraiment très, très cruel pour Lance Stroll.
Je me demande si ce n'était pas d'ailleurs fait exprès de la part de Fernando pour relâcher un petit peu la pression. Parce que,
qu'il aurait fait une contre-performance en Espagne chez lui. Oh, c'est là.
Je sais, mais après, c'était, je crois, une sixième place qui était en jeu, donc ce n'était pas énorme. Mais c'est vrai que c'est lâcher une sixième place à son coéquipier à domicile, c'est difficilement compréhensible pour Alonso.
Je faisais référence au pédigré de George Russell quand on évoquait le cas du Britannique chez Mercedes. Si on va chercher dans les statistiques et les comparaisons en qualification de Lance Stroll face à ses coéquipiers, c'est toi qui a sorti la statistique en préparant ce podcast. Là, on voit quand même que Lance Stroll, il aurait dû sortir par la fenêtre de la Formule 1 depuis très très longtemps. Hein.
Et pourtant, alors moi je trouve que c'est un bon pilote.
Il a un bon coup de volant, ok.
Il a gagné des titres en karting. Quand tu gagnes le championnat de Formule 4 en Italie, qui est le premier championnat d'accès en fait vers au kartman, c'est quand même pas rien. Il y a une grosse concurrence, donc ça, il le remporte en 2014. C'est probant quand même. Il y a rien à dire. Deux ans plus tard, il est champion en Formule 3. Donc là aussi, c'est pareil. Ça veut dire quelque chose. Mais après, je trouve qu'il y a eu une précipitation parce que le papa avait déjà une idée bien en tête, bien précise. Et qu'est-ce qu'il fait, le papa ? Pendant un an, il met le fiston à essayer, à tester les Williams. Il investit 80 millions d'euros pour faire tourner une équipe de tests dédiée à son fils sur beaucoup de circuits dans le monde entier, visité par la Formule 1, de sorte qu'il arrive chez Williams dans sa première saison en 2017 avec déjà une connaissance approfondie du système, des circuits, etc. Mais il n'a pas fait de Formule 2, il n'a pas fait de GP2, et c'est l'un des derniers pilotes qui est passé un petit peu à travers les mailles du filet de cette super licence qui a imposé en fait des résultats avant de passer en Formule 1. Et lui, il a fait le passage direct sans être prêt. Voilà. Tout simplement, ils ont un peu précipité les choses. Et le papa pensait qu'il était surdoué. Mais depuis 2017, en fait, il lui manque quelque chose de fondamental, c'est la vitesse pure. En qualification, on voit qu'il a pris des vestes depuis 2017 par rapport à tous ses coéquipiers.
Il a fait, si je fais le calcul, 116 qualifications depuis le début de sa carrière en Formule 1. Il a été devancé par son coéquipier à 85 reprises.
Voilà.
2017 face à Massa, normal. Première saison face à
chez
Felipe
Williams,
Massa.
Une bonne voiture, mais Massa, c'est un client.
Bon, voilà. 12-2. En fait, c'est l'année 2018 où quelque part, là, ça nous dit la vérité. Face à Sergei Sirotkin, hein. Attention, on passe de Felipe Massa à Sergei Sirotkin. 13-7 pour le russe. Donc là, déjà, on se dit ça pèse lourd. Les deux saisons face à Pérez, 17-2 pour Pérez, 10-4 pour la saison suivante. Et ensuite, chez Aston, face à Vettel, 13-8 et 13-7. Et là, cette année, ça fait 7-1 pour Fernando Alonso. Clairement, Lance Stroll, il a un bon coup de volant, ok. Mais là, Aston Martin aurait besoin d'un deuxième pilote avec Fernando Alonso pour faire avancer l'équipe. Et il n'y en a pas. Et on va aller plus loin. Il n'y en aura pas. C'est unique dans l'histoire de la Formule 1 d'être dans cette situation où, en fait, il y a une voiture dans l'équipe parce que l'autre, elle est pour Lance Stroll.
Et ce week-end-là, le père Stroll, donc Lawrence Stroll, avait donné rendez-vous pour un double podium à la maison.
Eh oui.
Donc Fernando Alonso, évidemment, plus le fiston. On a vu ce que ça a donné. Ça veut dire qu'il s'est quand même trompé lourdement dans son jugement. Et chez Aston Martin, on parle quand même de Stroll comme quelqu'un qui sera au niveau de Fernando Alonso en fin d'année. Parce qu'il faut préparer la transition et... Fernando Alonso, il sort la brosse à reluire en disant « Mais oui, bien sûr, Lance Stroll, c'est le futur de l'écurie, c'est le futur leader. » Et puis quand tu vois le deal qu'ils ont avec Honda en 2026, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent Alonso partir à la retraite, Lance Stroll pilote numéro 1 avec un pilote japonais imposé par Honda comme coéquipier et puis l'affaire tourne. On n'en est pas du tout là, on est très très loin. Et d'ailleurs, Helmut Marko a dit de toute façon, c'est plus qu'optimiste et c'est irréaliste d'avoir ce plan-là pour le fiston.
Mais ils ont dit en fin d'année, mais quelle année ?
Non, mais oui.
Ils n'ont peut-être pas précisé l'année aussi.
Je pense que c'est 2023, malheureusement. Et je te rappelle qu'il a commencé en 2017, donc il fait sa 7e saison de Formule 1. C'est plus le débutant qui doit encore faire ses preuves, etc. Là, il a il a atteint son seuil de compétence, on va dire.
On est bien d'accord, on est bien d'accord. Et ça risque de finalement poser même un problème à Aston Martin, hein, qui n'avance qu'avec une seule voiture quand on veut tester des choses. Alors, Fernando Alonso, il est exceptionnel. Mais ça reste un humain et il ne peut pas tester dans deux voitures à la fois. Donc, à un moment, ça va quand même peser sur cette équipe.
Ouais. Et je le compare peut-être à d'autres pilotes qui viennent d'arriver sur l'éthique de travail, sur la mentalité. Je pense qu'il n'est pas passionné tout simplement par le pilotage, Lance Stroll.
Mais ça doit être dur de rester passionné quand tu prends des vestes.
Il a dit une seule fois qu'il aimait ce métier, c'est quand il a fait sa pole position en Turquie, je crois que c'était en 2020. J'aime la Formule 1. Alors là, on ne l'avait jamais entendu comme ça.
Oui, mais c'est normal.
Et autrement, c'est pas une brute de travail, ça c'est clair. Vettel l'avait dit, de toute façon, je suis le seul pilote dans l'écurie, donc ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Et lui, je pense qu'il attend que Alonso fasse le travail, qu'on lui mitonne une bonne petite voiture du prêt à gagner tous les week-ends.
Bah,
il ramasse la mise.
Non.
Il est loin de tout ça. Et puis, je dirais que dans la mentalité, il n'y est pas non plus. Parce qu'il prend 3 places de pénalité, je dirais, de façon stupide. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ce n'est pas sévère de dire ça. Parce que quand il gêne Ocon au virage numéro 8, en qualif, en Q2, on l'a appelé pour lui dire que Ocon arrive, mais il le gêne quand même. Alors, il y a quelques pilotes comme ça qui connaissent leurs adversaires directs pour entrer en Q2, pour entrer en Q3, qui connaissent leurs adversaires pour passer le cut et qui passent leur temps aussi un petit peu à gêner.
Et pourtant, ils sont super copains, Ocon et
Oui, bien sûr, Ocon mais Stroll. Plus sur la piste. Hein. Bah, ça, c'est toujours comme ça. Et donc, en fait, il a l'information et c'est pour ça qu'il a été en partie sanctionné. C'est ce qu'ont expliqué les commissaires. C'est une mentalité. Et avec cette mentalité, tu ne peux pas gagner. Il n'y a pas d'histoire. Alors, il n'a pas eu de chance en course. Il s'est arrêté juste avant l'intervention de la voiture de sécurité. Il a sur 2 points, il passe quand même à l'Agnac, Bottas sur la ligne, c'est quand même assez incroyable. Bottas qui s'écroule un petit peu, bon ça c'est encore autre chose, mais il a quelques fulgurances, mais elles sont très nettement insuffisantes. Je pense qu'il faut vraiment qu'il se mette au travail, il y a besoin maintenant d'une prise de conscience parce que le père Stroll a mis en place tout ce dispositif. Il y a des papas qui payent des tours de manège à leur fiston. Lui, il a carrément acheté le manège pour que le fiston soit champion du monde.
Oui,
ça
justement,
en prend pas le chemin.
Et justement, est-ce qu'à un moment, si le fiston dit « Bon, bah, j'y arriverai pas, c'est bon, j'arrête » et il va peut-être partir vers autre chose, est-ce que le papa pourrait pas casser le jouet en disant « Bon, bah, c'est bon, c'est terminé » et casser ce qui est quand même une aventure assez incroyable d'Aston Martin en Formule 1, c'est le risque ?
C'est une progression, il est en train de réussir et je pense qu'effectivement, le père lui mettra de plus en plus la pression. C'est la première fois, hein. C'est une pression positive, c'est une pression familiale. Mais il y a deux choses. Il a construit ce projet autour de l'affect, parce qu'il voulait quelque chose pour son fils. Après, il y a le businessman qui parle dans l'organisation de l'équipe. Il est en train de faire des choses très intéressantes. Ils n'ont fait que des bons recrutements.
C'est vraiment
impressionnant. Et le père ne débranchera pas. C'est hors de question. Je pense que le fils se lassera avant et dira « c'est bon pour moi, j'ai fait le tour de la question ». Et le père continuera parce que la Formule 1 est un outil de promotion pour la vente des voitures, des Aston Martin. Donc, c'est pour ça qu'Aston Martin peut voir loin avec ou sans Lance Stroll.
Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire après ce Grand Prix du Canada remporté par Max Verstappen, devenu donc légal avec 41 succès de Ayrton Senna. Il n'y a pas de Grand Prix le week-end prochain, on va pouvoir se reposer là, parce qu'entre les 24 heures du Mans, les Grands Prix au Canada et tout. Bon, souffler un petit peu. Quoi qu'il arrive, il y aura quand même Les Fous du Volant, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si ça vous a plu, et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on a encore été très très bavard. On va se faire disputer, mais on s'est régalé encore une fois avec l'aide de Adrien Yo et de Simon Farvac. On se retrouve la semaine prochaine.
Et Quentin Guichard qui nous fait les...
Exactement.
Les présentations, les visuels que vous pouvez retrouver sur les vidéos.
Sur les pastilles vidéo sur le site eurosport.fr. On se retrouve la semaine prochaine.
J'ai pas mieux à dire.
Et d'ici là,
on coupe le contact.